I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Binge Audio.
Salut, c'est Thomas Rozek. On ne va pas commencer à lister les polémiques qui, depuis la rentrée, rythment déjà une année qui s'annonce particulièrement épuisante pour qui s'intéresse à la vie politique française. Mais tout de même, il y a une sortie, une déclaration choc sur laquelle on peut s'arrêter un instant.
D'abord, est-ce que vous pensez que quand des caïds, des voyous vivent avec 100 000 euros d'argent liquide par jour, ils vont monter une petite échoppe, déclarer aux URSSAF et aux impôts, payer des cotisations, comme ça, pour vendre le cannabis au coin de la rue, sur le vieux port de Marseille? C'est pas comme ça que ça se passe.
Vous aurez reconnu, bien sûr, l'inénarrable Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, c'était sur France Info il y a quelques semaines. Oublions un instant le projet politique et sécuritaire qu'il y a derrière cette tirade. Arrêtons-nous sur ce chiffre. 100 000 euros par jour. C'est sûr que dit comme ça, ça fait beaucoup. Mais à quoi il correspond ce chiffre? Et puis, est-ce qu'il existe vraiment? Et puis plus généralement, ça gagne combien, un dealer? C'est ce qu'on s'est demandé et c'est ce qu'on a été demandé à tout un tas de gens bien mieux informés que nous ou que Gérald. Bienvenue dans Programme B.
Allô?
Ouais, Philippe?
Oui, salut.
Tu m'entends?
Je t'entends très bien. Et toi, c'est bon?
Écoute, moi, ça a l'air d'aller.
Philippe Pujol, vous le connaissez déjà si vous écoutez Programme B depuis longtemps. Il est journaliste indépendant à Marseille. Il connaît par cœur le tissu criminel et délinquant de sa ville pour avoir notamment couvert les faits divers là-bas pendant des années. On avait fait ensemble en 2020 une grande série d'entretiens sur ces années de faits diversiers qui s'appelle Désordre ordinaire.
Hop, est-ce que là, tu m'entends toujours?
Ouais, c'est parfait.
En préparant cet épisode, je me suis souvenu d'un truc qu'il m'avait dit. Le fait qu'il s'était lancé dans une longue enquête sur le trafic dans les cités marseillaises en partant d'une idée reçue qui lui trottait dans la tête. Le fait qu'en gros, les gamins dans ces cités gagnaient un max de fric.
Bah oui, exactement. De toute façon, les idées reçues, c'est les idées des autres dans un premier temps. Une idée reçue n'est pas forcément fausse, mais en tout cas, c'est pas la tienne. Donc moi, l'idée, c'était d'aller vérifier. C'est comme ça que je travaillais souvent. C'est-à-dire, j'ai une idée reçue, puis je vais m'en servir. Et donc, je partais pour voir si, en effet, les gamins des cités, les choufs, les minots qui font du deal de quartier, il faut s'en rappeler, hein, c'est du deal de terrain, de la vente au détail, est-ce qu'ils se gavent? Est-ce qu'ils se font les couilles en or, comme ils disent? Quand on va vérifier, il y a plein d'éléments qui montrent que ceux-là, en tout cas, c'est-à-dire l'immense majorité de ce qu'on appelle des dealers, ne font pas d'argent du tout. C'est-à-dire, non seulement ils en font pas beaucoup, mais au final, ils perdent des sous. Ils sont obligés même de dealer gratuitement. Ceux qui les exploitent, ceux qui sont au-dessus, oui, il va y avoir une partie de ceux-là qui vont faire de l'argent, voire pour certains, beaucoup d'argent. On est d'accord. Mais c'est pas ceux qu'on voit dans nos débats actuels sur la question de trafic de stupéfiants dans les quartiers nord. C'est pas eux. Quand on dit un dealer, parce que le terme dealer, il est un peu pernicieux, il est utilisé c'est une volonté d'utiliser ce terme-là. Est-ce que le petit chouf qui crie acha, c'est-à-dire quand la police arrive, qui crie pour prévenir les collègues qui a la police, est-ce que ce petit chouf est le gros fournisseur? Méritent tous les deux l'appellation dealer. Bon, pour moi, non. C'est-à-dire qu'il faudrait les nommer autrement. Mais l'avantage pour le pouvoir, allez, on va dire, hein, pour la police, pour ceux qui génèrent du chiffre, ça veut dire qu'à la fin de l'année, tu annonces un nombre incalculable de dealers interpellés. Mais en fait, des vrais dealers, ceux qui vendent, il n'y en a pas tant que ça. C'est beaucoup plus dur. Et je ne jette pas la pierre à la police quand je dis ça. C'est beaucoup plus dur. L'immense majorité ne se gaffe pas. Après, on peut me montrer quelques cas de types qui vraiment font du blé. Ouais, il y en a, ça c'est clair. Je dirais entre 50 et 100, ça dépend des périodes à Marseille, qui font de l'ordre de 4-5 000 euros réellement par mois. Et après, une vingtaine qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais ceux-là, ils sont très riches, avec beaucoup d'emmerdes, une carrière courte. Mais en attendant, oui, en effet, ceux-là, ils font vraiment du fric.
Quand tu entends les volumes qui peuvent être évoqués parfois, du type 100 000 euros par jour, ce genre de choses, est-ce que c'est des sommes que toi, tu as déjà entendues sur le terrain ou est-ce que ça te paraît stratosphérique comparé à ce que tu as vu, toi ?
Bah là, il suffit de faire les calculs. Il y a plein de manières pour de vérifier ça. Déjà, quand on dit par jour, ça voudrait dire que tous les jours sont uniformes. Non, un jour de match de l'OM au Stade Vélodrome, on va vendre plus qu'un jour, qu'un dimanche veille de rentrée, quoi. C'est pas comparable. Les moments où ils vendent le plus, c'est à Noël et au moment de la Saint-Sylvestre, au moment du jour de l'an. Là, ils vendent beaucoup. Et là, peut-être que ce jour-là, ils font cette somme-là. Ce jour-là. Mais la plupart du temps, je parle des très gros réseaux, je ne vais pas les citer, parce que si on cite les très gros réseaux, on fait de la pub. Les très gros réseaux, qui ne sont pas nombreux, ils sont trois à Marseille, très gros, ils font de l'ordre de 50 000 euros au jour. Mais c'est une moyenne, tu vas avoir des moments des pics, qui est beaucoup d'argent qui circule, oui, parce que c'est une entreprise qui demande de la matière. Donc, la matière première, c'est le shit. Il faut déjà l'acheter, donc il faut du fric. Ensuite, il y a toute une petite armée, alors même si tu les exploites, il y a un moment il est sorti d'argent, et ensuite il y a tout le blanchiment qui coûte quelque chose, et il y a toutes les attentions pour de sécurité, toutes les précautions de sécurité que tu vas prendre pour pas te faire flinguer, pour pas avoir de problème avec les uns et les autres. Et ça coûte énormément d'argent, notamment d'avoir plein de portables, de dormir dans des hôtels de luxe parce que c'est vidéo surveillé, etc. Ça coûte beaucoup de fric. Donc, au final, qu'est-ce qui reste ? Pas grand-chose. Ils n'ont pas grand-chose, il n'est pas partagé, bien évidemment. On ne va pas commencer à partager, ce n'est pas les communistes. Hein. Ils ont plutôt tendance à essayer, au contraire, ce qui reste, de garder pour eux. C'est là que ça crée de la tension. Voilà, c'est du liquide, c'est de l'argent liquide. Et le liquide, c'est volatile, ça s'évapore. Ben là, on le voit.
Des caïds, des voyous. 100 000 euros d'argent liquide par jour. C'est pas comme ça que ça se passe.
Savoir combien gagne un dealer, la réponse, c'est à quel niveau de la chaîne de deal il se trouve.
Pierre-Alexandre Kopp est avocat. Il est aussi chercheur et professeur en économie à l'Université Paris 1. Il s'intéresse depuis des années au business du trafic de drogue en France.
Traditionnellement, on distingue ce qu'on appelle les petites mains, c'est-à-dire les gens qui ne vendent pas directement ou qui vendent au consommateur final, donc ils vendent par 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes de cannabis, plus tous ceux qui opèrent la surveillance autour des lieux de deal. Bon, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les smigards du cannabis. Au-dessus, il y a des patrons de points de deal qui vont arriver à vendre, alors pour les uns, 4, 5 kilos, 10 kilos par mois d'herbe ou de résine. C'est pas le même poids. Hein. Ça fait effectivement des petites organisations qui localement pèsent. Et effectivement, c'est des gens qui gagnent de l'argent, qui en redistribuent aussi beaucoup à leurs employés. Et puis, beaucoup plus haut, on a les gens qui assurent l'importation vers la France. C'est les gens qui, pour certains maintenant, sont plutôt basés à l'étranger, vers des lieux de production, pour ne citer aucun pays spécifique, et qui assurent l'export depuis ces pays vers la France et qui assurent la logistique et les réseaux. Alors là, effectivement, on parle en tonnes et on parle en profits beaucoup plus importants. Alors évidemment, si vous parlez de ce qu'on appelle les smigards du cannabis, c'est-à-dire les gens qui sont ceux qui font le guet ou ceux qui vendent au bas des fours, bon, là, on a des chiffres qui sont extrêmement bas, c'est de l'ordre de 1000 euros par mois, ce qui veut dire que c'est à peu près l'équivalent de ce qu'ils gagneraient s'ils gagnaient au SMIG. Alors ensuite, à l'autre extrémité, évidemment, vous avez ce qu'on appelle les très gros dealers. Alors là, on n'a pas une idée extrêmement précise, mais ce qu'on peut dire, c'est que il y a quoi ? Il y a une centaine, peut-être 150 personnes qui répondent à ce critère, de très très gros dealers. Et là, effectivement, on a des revenus qui sont de l'ordre de 100 000 à 200 000 euros par mois. Alors, attention, parce que même les dealers emprisonnés ont toujours tendance à exagérer leurs gains. C'est un peu une question de réputation. Et donc, tout le monde vous donne, en gros, les gains du vendredi ou les gains de la meilleure semaine. Il faut savoir que sur une vie ou même sur un début de vie, tous ces gens vont en détention. Il y a plusieurs jours où il n'y a pas de marchandises, notamment pour les dealers moyens ou pour les gros dealers. Il y a des moments où on ne vend pas parce qu'on attend la livraison, etc., etc. Donc, si vous voulez, il ne suffit pas de prendre le meilleur des chiffres et de le multiplier par 365 pour avoir le résultat. Pour moi, il n'y a pas de controverse parce qu'il existe l'Office français des drogues et de la toxicomanie qui publie chaque année des données, et les données que je viens de vous indiquer sont celles qui sont présentées par l'OFDT. Alors, l'OFDT est extrêmement prudent, ils disent attention, voilà, ça a été recueilli de telle façon, c'est sujet à caution, etc. Ils font très bien le boulot, mais je ne connais pas d'autres études scientifiques qui soit contradictoire avec les sources que mobilise l'OFDT. Alors ensuite, chacun peut fantasmer, mais c'est plus de la recherche scientifique.
Ce qui, moi, m'a frappé en travaillant sur ce sujet, c'est de voir que, effectivement, ces chiffres, ils existent depuis longtemps, ils sont accessibles, ils ont fait l'objet de communications à la fois scientifiques, mais aussi médiatiques. Il y a bon nombre d'articles, d'interviews qui les reprennent, qui les expliquent et qui expliquent d'où ils viennent et comment ils sont sourcés. Malgré tout, se maintient le discours de façade politique qui varie en fonction des intentions de chacun, mais aussi j'ai l'impression le fantasme que dans ce business-là, en gros, on gagne énormément d'argent.
Bon, j'ai un petit peu de mal à discuter des fantasmes des gens. Je parle avec les personnes que j'ai l'occasion de défendre comme avocat. Je crois qu'ils ont une appréhension assez réaliste de ce qu'ils vont gagner et de la forte probabilité qu'ils ont d'être obligés de voir un avocat un jour ou l'autre et de suivre la chaîne détention provisoire, sursis probatoire et puis plus de sursis et détention. Alors, est-ce que sur une vie, ce type d'expérience, ce type de trajectoire est rentable? Alors, pour les uns, oui, à l'évidence. Pour les autres, non, très certainement. La question, c'est rentable par rapport à quoi? Si on compare par rapport au SMIG, eh ben, pour beaucoup, ils feront des longues heures, payées certes en liquide, certes tous les jours, mais in fine, ça ne fait pas plus qu'un SMIG. Il y a peut-être 1000, 2000 ou 3000 personnes qui ont un revenu tout à fait substantiel, qui là est au-dessus de 1000 euros par mois, mais qui est plutôt entre 5, 15 ou 20 000 euros par mois. Mais une fois de plus, il faut toujours se placer en fait sur une durée de vie. Sur une durée de vie, si vous gagnez 10 000 euros par mois pendant 3 ans, c'est assez impressionnant, c'est un beau revenu. Si vous passez 5 ans en détention, ça diminue assez nettement le revenu mensuel.
En fait, en cours de route, me vient une question. Comment est-ce qu'on les trouve, ces chiffres? Comment on met des sommes en face d'activités qui, par nature, sont illégales et donc difficilement traçables dans des banques, par exemple? J'ai demandé à la chercheuse Claire Duport, sociologue et professeure associée à l'Université d'Aix-Marseille, comment est-ce qu'on arrivait à savoir à qui va l'argent et dans quelle quantité?
Le but, c'est vraiment de le savoir, comme vous dites, mais de le savoir de manière objective. Parce que on a beaucoup de savoirs qui sont des savoirs instantanés, qui n'ont pas été triangulés avec d'autres données. C'est-à-dire que, par exemple, la police va mener une opération fructueuse sur un réseau pratique et va saisir des milliers d'euros. Et ils vont dire, on a saisi des milliers d'euros, que gagne ce chef de réseau? C'est une information instantanée. Ce n'est pas une observation objectivée, ce n'est pas du bénéfice net, c'est peut-être ce jour-là et pas les autres, etc. Donc, pour nous, les chercheurs, notre travail, en fait, c'est d'objectiver les informations. Alors, comment on fait pour objectiver les informations? D'abord, on croise nos compétences, de sorte à se dire, bon, en général, un guetteur, il ne faut pas rêver, il gagne 50 euros par jour. Et encore, ce n'est pas tous les jours. Mais on a besoin aussi de trianguler ces données de terrain et ce travail à partir des données du terrain avec des données institutionnelles. C'est lors des procès qu'on apprend beaucoup de choses sur la réalité de cet argent qui a été saisi, d'où il venait, à qui il appartenait, etc. Et puis on va croiser ça aussi avec, par exemple, les données des saisies de police et de douane, voilà. Et ce n'est qu'en faisant un travail de triangulation de tout ça qu'en effet, on peut dire, à l'issue de ça, voilà, qui gagne combien à peu près, ou qui gagne précisément combien sur tel réseau. Ce qu'on a pu faire, par exemple, sur un réseau marseillais, parce que, miracle, il se trouve que la police avait saisi des livres de compte et qu'au moment du procès, on a eu accès au compte, à l'euro près, hein, à l'euro près. Donc là, on savait qui gagnait combien, en vrai.
Il y a ce garçon embauché 6 mois en tant que guetteur au tarif de 60 euros par jour. Plusieurs autres confirment leur rémunération à 50 euros par jour en tant que guetteur, puis promu vendeur à 100 euros par jour pour un travail de 10 à 12 heures par jour, 6 jours par semaine.
Extrait de l'article « De l'argent facile » de Claire Duport, paru dans la revue Mouvement en 2016.
Ou cet autre qui annonce 140 euros par vacation de 11 heures du matin à minuit, soit 13 heures consécutives de travail et un bonus en cas de très bonne journée. Cet intermédiaire avoue, lui, qu'il empochait 750 euros de bénéfices par kilo de cannabis vendu et que cela lui permettait d'arrondir ses fins de mois, payer ses amendes, ses dettes, se faire plaisir, en plus de son salaire d'employé d'une entreprise à hauteur de 1400 euros par mois. Le dossier ne précise pas si c'est en salaire brut ou net. Un autre annonce des bénéfices de 1000 à 2000 euros par kilo d'herbe vendue qu'il achetait au 10 réseau de la Castellane pour 5000 à 7000 euros le kilo. De même, cette nourrice, qui s'avère être un homme, ouvrier qualifié de 43 ans, marié et père de 4 enfants, chez qui la police a saisi un sac contenant 850 955 euros. À l'audience, il avouera n'avoir eu aucune idée de ce que contenait ce sac, mais avoir cédé à la possibilité de payer ainsi ses dettes de loyer et les fins de mois de son modeste train de vie familial, moyennant 1600 euros déposés chaque mois par un inconnu cagoulé qui faisait les allers-retours avec le sac contenant le pactole à une heure où la famille était absente du logement.
Pour quelqu'un qui ne gagne rien, c'est beaucoup d'argent. 1000 euros, 1500 par mois, c'est beaucoup d'argent, d'accord ? Voilà. Et puis, ce salaire minimum, c'est pas un salaire d'ailleurs, ce revenu minimum, il va augmenter en fonction du poste qui est tenu et de ce que ce poste rapporte à l'organisation générale, d'accord ? Donc en effet, on va trouver des... Ici, à Marseille, ils s'appellent des charbonneurs entre eux, donc des gens qui vendent les produits et qui vont pouvoir gagner 100, 150, 200, parfois plus, tout dépend. Alors, souvent, les chiffres sont très exagérés par eux-mêmes d'ailleurs, parce qu'ils leur passent énormément d'argent entre les mains dans une journée. Vous voyez ? Mais ce n'est pas leur argent à eux. Cet argent, même quand il est plus peu, il est déjà beaucoup plus que rien. C'est-à-dire qu'à ces petits postes, aux petits postes, ce sont. J'allais dire dans leur majorité, mais à ma connaissance, exclusivement des personnes qui n'ont pas accès aux ressources légales, ou très peu, ou tellement peu, que 100 euros est une somme énorme pour eux, hein, quand on n'a rien, ou quasiment rien. Évidemment, là, on parle de petites mains, enfin, c'est une espèce de capitalisme de paria, quoi. Sont très mal vus par la société et en plus, ils travaillent dans des conditions tout à fait salement rémunérées. Ce n'est pas le cas d'un responsable de réseau, d'un chef d'équipe, d'un chef de réseau qui, là, gagne des sommes plus importantes.
Alors justement, si on monte d'un cran et qu'on s'intéresse au réseau dans son ensemble, ça donne quoi ? Et encore une fois, comment est-ce qu'on fait ? Là, c'est l'économiste Nasser Lalam qui répond. Il est directeur de la recherche et de la prospective à l'IHEMI. L'IHEMI, c'est l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, tiens.
Il y a au moins deux grosses méthodologies majeures. La première, c'est celle de partir des saisies, donc des données de police et des douanes, et d'extrapoler ensuite le marché. Alors, il y a un chiffre qui circule qui est de l'ordre de 10%. Il repose sur pas grand-chose en réalité. Donc 10% et pourquoi pas 15, etc. Donc on exclut cette réalité, bien qu'elle était ancrée dans les institutions, de dire on prend 10% des saisies, on a une idée du marché. Alors que nous sommes partis plutôt de données plus plus robuste, à savoir la consommation. Et donc, on a de très bonnes enquêtes en France et en Europe sur la prévalence des consommations. Nous sommes partis donc de cette réalité de la consommation pour ensuite, en valorisant avec le prix, on obtient des chiffres globaux qui nous permettent d'extrapoler un marché. Mmh. Donc, on part de la consommation, des niveaux d'usage, de la fréquence de l'usage, de l'intensité des usages, et on valorise en fonction des prix du marché, donc des prix de détail. Et à partir de là, donc, on a un chiffre global. Toute la difficulté, c'est on a un chiffre d'affaires, on n'a pas un profit en tant que tel. Donc, ça veut dire qu'il faut, par ailleurs, mener des enquêtes plus qualitatives, des enquêtes de réseau, d'organisation, pour savoir comment s'organise le trafic, comment les trafiquants s'y prennent pour non seulement acheter la marchandise dans un pays tiers, la cheminer, la conditionner, la revendre, et ensuite la question de l'argent, effectivement, du blanchiment. Les travaux que nous avions faits sous l'égide de la mission interministérielle de lutte contre les drogues à l'époque nous avaient permis d'aboutir à peu près un chiffre d'affaires global, encore une fois, prendre avec des pincettes, de l'ordre de 2,3 milliards d'euros par an. Ouais. C'est un chiffre d'affaires, hein. Encore une fois, ce ne sont pas les bénéfices. L'INSEE, dans ses travaux récents, aboutissait à peu près à de l'ordre de 3,1 milliards d'euros. D'accord. Donc, toutes drogues confondues. Le premier marché, ça reste le cannabis, bien qu'il soit talonné de près par la cocaïne, en termes de valeur, pas en termes de quantité. Et donc, on arrive aujourd'hui à 3,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires, sachant qu'il faut extraire la partie importation. Donc, c'est de l'ordre de 400 millions d'euros, ce qui fait à peu près un chiffre d'affaires de l'ordre de réalisé en France de 2,7 milliards d'euros. Donc, on a cette somme globale. La part des bénéfices, on peut considérer qu'à peu près entre 50 et 60% relève de bénéfices, qui fait à peu près, en gros, entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros de bénéfices. Une grande partie donc est rapatriée à l'étranger, que ce soit en Afrique du Nord, à Dubaï, en Espagne, et j'en passe.
Alors j'imagine que c'est cette part importante du trafic qui part à l'étranger, ça concerne un petit nombre de personnes qui, elles, en bénéficient beaucoup. Qu'est-ce qu'on sait de, à peu près, l'ampleur du nombre de gens qui, en France, en bénéficient ? C'est-à-dire que l'argent qui reste en France, il bénéficie à peu près à combien de gens derrière ?
Alors c'est une bonne question. Alors encore une fois, ce sont des chiffres... je dirais relativement théorique. Hein. À partir du chiffre d'affaires global, on estime qu'il y a une répartition entre, disons, à peu près 70% du marché serait pris par des organisations et 30% par, je dirais, des opérateurs en freelance. Donc, beaucoup moins organisés et qui mobilisent moins de personnes. Sur les organisations criminelles qui s'adonnent au trafic, encore une fois, les gagnants du trafic sont très peu nombreux. Et donc, c'est ce qu'on appelle les têtes de réseau. Ces têtes de réseau sont de l'ordre de quelques milliers, toutes drogues confondues. Hein. On est entre 5 et 10 000 maximum. Quoi. Et le gros des personnes impliquées dans le trafic, c'est véritablement, on pourrait être considéré comme les prolétaires du trafic. Certains parlent de smicards du business. Les prolétaires du trafic sont ceux, effectivement, qui gagnent peu. Et encore une fois, les gagnants, eux, sont d'ailleurs très peu dans les quartiers dits d'habitat social. Leur souci, c'est justement non seulement de ne pas être en contact avec les consommateurs, ni avec le produit. Ils sont en fait des financiers, voire des managers à distance. Donc, ceux-là, effectivement, gagnent. Alors, on est très loin du 100 000 euros par jour. Hein. On est sur les gros trafics, on peut être de l'ordre de 20 000 euros maximum. Vraiment un trafic d'envergure régionale.
La solution n'est pas policière ni judiciaire. C'est vider la mer à la petite cuillère, tout le monde en est conscient, tout le monde le sait, il n'y a pas un policier qui en doute. Après, il y a les postures morales, il y a les postures politiques, c'est encore autre chose. Mais la solution, elle passe par une dépénalisation, appelons ça comme ça, pour rester vague, et elle passe par ensuite un travail sur la consommation. Il faut que... Parce que les consommateurs, c'est principalement de la consommation de pour pallier à un mal-être. C'est des consommateurs qui sont dans une vie compliquée et qui ont besoin de fumer ou de la coque pour rester à flot. Le festif, le consommateur festif, il existe, mais en fait, c'est pas le gros du chiffre d'affaires et c'est pas la réalité du problème. Le problème, il est ailleurs. Mais bon, dire ça, ça veut dire tout simplement qu'il faut régler des problèmes de santé publique pour améliorer la situation. Or, on a l'argument inverse. On dit que le shit pose des problèmes de santé publique. Bon, pour moi, c'est l'inverse. Si tu améliores les problèmes de santé publique, donc tu fais de la prévention et de la désintoxication de ces gens, on sait le faire d'ailleurs, et bien là, tu vas améliorer la situation générale. C'est un choix politique, tout ça.
Finalement, ce qui pourrait être intéressant, c'est que les politiques publiques fassent comme les chercheurs et partent aussi des consommateurs. Pour info, puisqu'on a parlé beaucoup de chiffres, en France, 1,5 million de personnes consomment régulièrement du cannabis, 900 000 en consomment tous les jours et ça augmente tous les ans. Peut-être, ça n'est qu'une idée, qu'on pourrait se focaliser sur la demande plutôt que sur l'offre, sur le sanitaire, le psychosocial plutôt que sur le policier et le judiciaire. On a essayé d'appeler Gérald pour en parler.
De l'Intérieur, bonjour.
Oui, bonjour monsieur, j'aurais voulu parler à Gérald Darmanin, s'il vous plaît.
C'est de la part de qui ?
C'est de la part de Thomas Rozek, de Binge Audio.
Essayez par mail, monsieur.
Ok.
Bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Merci à Philippe Pujol, à Pierre-Alexandre Kopp, à Claire Duport et Nasser Lalame pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos prochains épisodes et nos très très nombreux épisodes précédents sont et seront à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous avez envie de nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.